Notes et portraits. L'abbé de Lille. Jacques de Lille n'a été toute sa vie qu'un enfant, le plus aimable, le meilleur et le plus spirituel enfant qu'on puisse voir. On l'appelait chose légère, et j'ai toujours été frappée de la justesse de ce mot. Car nul homme plus que lui n'effleurait la vie sans s'attacher fortement à quoi que ce soit au monde. Jouissant de l'heure présente, sans songer à l'heure qui devait suivre, il était rare qu'il fixât son esprit sur une pensée profonde. Rien n'était plus facile à qui voulait prendre de l'empire sur lui que de le conduire et de l'entraîner. Son mariage en est une bien forte preuve. Avec qui n'avait-il pas gémi de la chaîne qu'il portait alors qu'il était encore temps de la rompre? Enfin, un ami le décide à reprendre sa liberté et lui offre un asile. De Lille accepte. Ravi, tout à fait résolu, il demande seulement une heure pour aller se munir de quelques effets. Le soir, cet ami, ne le voyant point reparaître, va le chercher. « Eh bien !»« Eh bien, répond De Lille, je l'épouse, mon ami. J'espère que tu voudras bien me servir de témoin. » Le comte de Choiseul-Gouffier, avec qui il était intimement lié et qui partait pour la Grèce, lui avait parlé plusieurs fois du désir qu'il avait de l'emmener avec lui. Cependant, rien n'était convenu, rien n'était arrêté entre eux pour ce voyage. Le jour du départ, le comte va chez l'abbé et lui dit « Je pars à l'instant, venez avec moi, la voiture est prête. » Et l'abbé monte sans avoir fait aucun préparatif auquel, à la vérité, M. de Choiseul avait pourvu. Arrivé à Marseille, De Lille se promène sur le rivage, regarde la mer. Une profonde mélancolie s'empare de lui. « Je ne pourrai jamais, se dit-il, mettre cette immensité entre mes amis et moi. Non, je n'irai pas plus loin. » Alors il quitte furtivement M. de Choiseul et va se cacher dans un petit cabaret, un véritable bouchon où il se croit introuvable. Mais à force de recherche, M. de Choiseul le découvre, le ramène et l'embarque avec lui. Éloigné de ses amis, il ne les oublia jamais et leur donnait souvent de ses nouvelles. Il m'écrivit plusieurs fois d'Athènes. Dans une de ses lettres, il me disait avoir inscrit mon nom sur le temple de Minerve. Ce que, m'étant rappelé à Naples, je lui écrivis à mon tour qu'avec beaucoup plus de raison, j'avais écrit le sien sur le tombeau de Virgile. Je regretterai toujours la perte que j'ai faite et des lettres de l'abbé de Lille et de celles que M. de Vaudreuil m'adressait pendant le voyage qu'il fit en Espagne avec le comte d'Artois, qui était pleine de détails intéressants sur ce pays. Je confiai le tout à mon frère en quittant la France et, dans le temps des visites domiciliaires, mon frère jugea prudent de brûler ses correspondances. L'abbé de Lille a passé sa vie dans la haute société dont il faisait le plus brillant ornement. Non seulement il disait ses vers d'une manière ravissante, mais son esprit si fin, sa gaieté si naturelle, donnait à sa conversation un charme indicible. Personne ne comptait comme lui. Il faisait les délices de tous les cercles par mille récits, par mille anecdotes, sans jamais y mêler de fiel ou la satire. Aussi peut-on dire que tout le monde l'aimait, comme on peut dire aussi qu'il aimait tout le monde. Ce dernier mérite, si c'en est un, tenait en lui, je pense, à cette faiblesse de caractère dont j'ai déjà parlé. Il ne savait pas plus haïr que résister, et dans l'ordinaire de la vie, sa facilité était vraiment rare. Vous avait-il promis de venir dîner chez vous? Au moment de partir pour s'y rendre, s'il arrivait une personne qui vint le chercher, elle vous l'enlevait et vous l'attendiez en vain. Je me souviens qu'un jour, comme nous lui reprochions d'avoir ainsi manqué de parole, il nous prouva qu'il avait réponse à tout. « Je me persuade, dit-il, que celui qui vient me chercher est plus pressé que celui qui m'attend. » Il avait des traits de bonhomie qui rappelaient beaucoup La Fontaine. Un soir qu'il venait de souper chez moi, je lui dis « L'abbé, il est bien tard. Vous demeurez si loin que je m'inquiète de vous voir retourner à cette heure-ci menant votre cabriolet. » « J'ai toujours la précaution de porter un bonnet de nuit dans ma poche, » répondit-il. Je lui proposai alors de lui faire établir un lit dans mon salon. « Non, non, » dit-il, « j'ai dans votre rue un ami chez lequel je vais coucher très souvent. Cela ne le gêne en rien et je puis m'y rendre à toute heure. » Ce qu'il fit aussitôt. Nul être ne jouissait autant de la vie, n'en effleurait davantage tous les charmes. Toujours prêt à rire, à s'amuser, Delille avait une sorte de bonheur qui ressemblait au bonheur d'un enfant. Ce même homme, pourtant, a déployé la plus grande énergie tant qu'a duré la Révolution. Tout le monde sait avec quel glorieux courage il repoussa Chaumette, procureur de la Commune, qui lui commandait en 1793 une ode à la déesse de la raison. Delille ne pouvait ignorer que son refus était son arrêt de mort. Et c'est alors qu'il fit ce beau dithyrambe sur l'immortalité de l'âme. Il lut à Chaumette, et quand il en fut à ses vers, « Oui, vous qui, de l'Olympe usurpant le tonnerre, des éternelles lois renversez les autels, lâches oppresseurs de la terre, tremblez, vous êtes immortels. » Il s'arrêta, regarda le tribun, et répéta d'une voix forte et assurée, « Vous aussi, tremblez, vous êtes immortels. » Chaumette, quoique fort interdit, murmura quelques menaces. « Je suis tout prêt, répondit Delille, je viens de vous lire mon testament. » Pour cette fois, le courage de l'honnête homme eut un heureux succès, car Chaumette le quitta pour aller dire à ses amis qu'il n'était pas encore temps de faire mourir Delille, que depuis il ne cessa de protéger. Le poète n'en crut pas moins qu'il était prudent d'émigrer. Il passa en Angleterre, où il se vit accueilli et recherché par tout ce qu'on y trouvait de personnes distinguées et recommandables. Sa muse garda toujours son feu sacré pour ses rois légitimes. Sous le règne de l'usurpateur, qui faisait trembler le monde entier, il fit paraître son poème de la pitié, et, rentré en France, il eut le courage, plus rare peut-être, de résister aux feintes caresses d'un pouvoir absolu. Il ne craignit pas de s'exposer à la disgrâce pour conserver sa propre estime, l'estime de ses amis et l'admiration générale dont il a joui jusqu'à son dernier jour. Le comte de Vaudreuil. Né dans un rang élevé, le comte de Vaudreuil devait encore plus à la nature qu'à la fortune, quoique celle-ci l'eût comblé de tous ses dons. Aux avantages que donne une haute position dans le monde, il joignait toutes les qualités, toutes les grâces qui rendent un homme aimable. Il était grand, bien fait, son maintien avait une noblesse et une élégance remarquables. Son regard était doux et fin, sa physionomie extrêmement mobile comme ses idées, et son sourire obligeant prévenait pour lui au premier abord. Le comte de Vaudreuil avait beaucoup d'esprit, mais on était tenté de croire qu'il n'ouvrait la bouche que pour faire valoir le vôtre, tant il vous écoutait d'une manière aimable et gracieuse. Soit que la conversation fût sérieuse ou plaisante, il en savait prendre tous les tons, toutes les nuances, car il avait autant d'instruction que de gaieté. Il comptait admirablement, et je connais des vers de lui que les gens les plus difficiles citeraient avec éloge. Mais ces vers n'ont été lus que par ses amis. Il désirait d'autant moins les répandre qu'il s'est permis d'employer dans quelques-uns l'esprit et la forme de l'épigramme. Il fallait, à la vérité, pour qu'il agît ainsi, qu'une mauvaise action eût révolté son âme noble et pure, et l'on peut dire que s'il montrait peu de pitié pour tout ce qui était mal, il s'exaltait vivement pour tout ce qui était bien. Personne ne servait aussi chaudement ceux qui possédaient son estime. Si l'on attaquait ses amis, il les défendait avec tant d'énergie que les gens froids l'accusaient d'exagération. « Vous devez me juger ainsi, répondit-il une fois à un égoïste de notre connaissance, car je prends à tout ce qui est bon et vous ne prenez à rien. » La société qu'il recherchait de préférence était celle des artistes et des gens de lettres les plus distingués. Il y comptait des amis qu'il a toujours conservés, même parmi ceux dont les opinions politiques n'étaient point les siennes. Il aimait tous les arts avec passion, et ses connaissances en peinture étaient très remarquables. Comme sa fortune lui permettait de satisfaire des goûts fort dispendieux, il avait une galerie de tableaux des plus grands maîtres de diverses écoles. La plus grande partie de ses tableaux sont maintenant au musée. Son salon était enrichi de meubles précieux et d'ornements du meilleur goût. Il donnait fréquemment des fêtes magnifiques et qui tenaient de la féerie, au point qu'on l'appelait l'enchanteur. Mais sa plus grande jouissance, pourtant, était de soulager les malheureux. Aussi, combien a-t-il fait d'ingrats ? La seule contradiction qu'on put remarquer dans cet esprit si sain et si droit, c'est que M. de Vaudreuil se plaignait très souvent de vivre à la cour, quand il était clair pour tous ses amis qu'il n'aurait pu vivre ailleurs. En y réfléchissant néanmoins, je me suis expliqué cette bizarrerie. La belle trempe de son âme faisait de lui un enfant de la nature qu'il aimait et dont il jouissait trop peu. Son rang l'éloignait trop souvent d'un monde dans lequel la solidité de son esprit, son goût pour les arts, l'entraînait sans cesse. Puis, d'un autre côté, il lui plaisait sans doute d'occuper à la cour une place si distinguée qu'il devait à son mérite personnel, à son caractère franc et loyal. D'ailleurs, il adorait son prince, Monseigneur le comte d'Artois, qu'il n'a jamais flatté et qu'il n'a jamais quitté dans ses malheurs. Il est rare qu'une pareille amitié s'établisse entre deux hommes dont l'un est né si près d'un trône, car cette amitié était réciproque. En 1814, il arriva que M. Vaudreuil eut une discussion avec Monseigneur le comte d'Artois, et à ce sujet, il lui écrivit une longue lettre dans laquelle il lui disait qu'il lui semblait cruel d'être ainsi en contradiction après 30 ans d'amitié. Le prince lui répondit en 2 lignes. « Tais-toi, vieux fou, tu as perdu la mémoire, car il y a 40 ans que je suis ton meilleur ami. » Pendant l'émigration et dans un âge avancé, il se maria en Angleterre avec une de ses cousines, très jeune et très jolie. Il en eut 2 fils et fut un aussi bon mari que bon père. De longs malheurs, la perte entière de sa fortune que la restauration ne lui a point fait recouvrer, ne sont jamais parvenus à l'abattre. Il a conservé le même cœur et le même esprit jusqu'à son dernier moment. À la restauration, il avait été nommé gouverneur du Louvre. Aussi peut-on remarquer qu'il a terminé ses jours près de l'enceinte où sont renfermés les chefs-d'œuvre que pendant sa vie il avait tant admirés. Son âme tendre éprouvant le besoin d'élever ses affections plus haut que cette terre, il était devenu très pieux, mais sans aucune bigoterie. Ses sentiments ont adouci sa fin et il est mort, entouré de ses amis, dans les bras de son prince chéri qui ne l'a point quitté. Les vers suivants, adressés à M. de Vaudreuil par le poète Lebrun, justifient tout ce que je viens de dire. À M. le comte de Vaudreuil, une grâce, une muse, en effet, m'a remis les jolis vers dictés par le dieu du Parnasse au plus céleste de mes amis, à Mécène Vaudreuil qui chante comme Horace. Et quoi, l'ennui des cours n'a donc rien qui vous glace? Quoi? Votre lutte brillant n'est jamais détendue. Vous puisez dans votre âme un art divin de plaire et vous joignez toujours le bien dire au bien faire. Horace, avec plaisir, chez vous s'était perdu. Vous en avez si bien l'esprit et le langage que, par un charmant badinage, vous me l'avez 2 fois rendu. La comtesse de Sabran, depuis marquise de Boufflers. J'avais fait la connaissance avec elle quelques années avant la Révolution. Elle était alors fort jolie, ses yeux bleus exprimaient sa finesse et sa bonté. Elle aimait les arts et les lettres, faisait de très jolis vers, racontait à merveille, et tout cela sans montrer la moindre prétention à quoi que ce soit. Son esprit, naïf et gai, avait une simplicité toute gracieuse qui la faisait aimer et rechercher généralement, sans qu'elle se prévalût en rien de ses nombreux succès dans le monde. Quant aux qualités de son cœur, il suffira de dire qu'une tendresse extrême pour son fils n'empêchait point qu'elle n'eût beaucoup d'amis, auxquels elle ait toujours été fidèle et dévouée. Madame de Sabran était une des femmes que je voyais le plus souvent, que j'allais chercher et que je recevais chez moi avec le plus de plaisir. Près d'elle, on n'a jamais connu l'ennui. Aussi fus-je charmé dans l'émigration de la retrouver en Prusse. Elle était alors établie à Reinsberg, chez le prince Henri, de même que le chevalier de Boufflers, qu'elle a depuis épousé. Rentrée en France et dans les derniers temps de sa vie, elle devint aveugle. Son fils alors ne la quitta plus. Son bras, pour ainsi dire, était attaché au bras de sa mère, et vraiment, on pouvait envier le sort de M. de Sabran. Car, malgré ses souffrances et son âge, Madame de Boufflers, toujours bonne, toujours aimable, conservait ce charme qui plaît et qui attire tout le monde. Je me rappelle que, sur la fin de sa vie, Forlance, fameux oculiste, venant de lui faire l'opération de la cataracte, elle était obligée de se tenir dans la plus grande obscurité. Un soir, j'allais la voir, je la trouve seule, sans lumière. Je croyais n'y rester qu'un moment. Mais le charme toujours renaissant de cette conversation si piquante, si pleine d'anecdotes, que personne ne savait conter ainsi, me retint plus de 3 heures auprès d'elle. Je pensais en l'écoutant que, ne voyant rien, ne recevant aucune distraction des objets extérieurs, elle lisait en elle-même, si je puis m'exprimer ainsi, et cette sorte de lanterne magique de choses et d'idées qu'elle me retraçait avec tant de grâce me retenait là. Je ne la quittais qu'à regret, car jamais je ne l'avais trouvée plus aimable. Madame de Boufflers n'a laissé que 2 enfants, son fils, monsieur le comte de Sabran, bien connu aussi, non seulement par son esprit plein de finesse, mais encore par des fables charmantes qu'il récite dans la perfection, et madame de Custine, que j'ai connue dans sa jeunesse et qui ressemblait alors au printemps. Elle était passionnée pour la peinture et copiait parfaitement les grands maîtres, dont elle imitait le coloris et la vigueur, au point qu'en entrant un jour dans son cabinet, je pris sa copie pour l'original. Elle ne cacha point tout le plaisir que lui causait mon erreur, car elle était aussi naturelle qu'elle était aimable et belle. Lebrun, le poète. Je ne crois pas avoir eu pour aucun auteur vivant autant d'admiration que j'en avais pour Lebrun, qui s'était lui-même surnommé Pindare. Le caractère grandiose de ses poésies excitait tellement mon enthousiasme que j'avais pris pour le poète une véritable amitié. Tout prodigieux qu'était l'orgueil de cet homme, je le trouvais si naturel qu'il ne me venait point en tête que le ridicule dût jamais s'y attacher. Ainsi, le jour où Lebrun termina son ode « Exegi monumentum » et qu'il nous la fit entendre, il put arriver à ses vers « Comme un cèdre aux vastes ombrages, mon nom, croissant avec les âges, règne sur la postérité. Siècle, vous êtes ma conquête, et la palme qui ceint ma tête rayonne d'immortalité. » Sans que personne de nous y trouvât rien à redire, sinon « C'est superbe, c'est vrai !» Lebrun venait très souvent chez moi. Je n'arrangeais pas la plus petite réunion que je ne l'invitasse un des premiers, et mon admiration pour son talent me le faisait aimer au point que je ne pouvais souffrir que l'on dît du mal de lui. Un jour, j'avais quelques personnes à dîner. J'entendis attaquer sa moralité de la façon la plus grave. On disait, entre autres choses, qu'il avait vendu sa femme au prince de Conti. On sent bien que je n'en voulus rien croire. J'étais furieuse. « Ne m'a-t-on pas aussi calomnié ? » disais-je dans ma colère. « Voyez toutes les absurdités que l'on débite sur moi au sujet de M. de Calonne. Ce que vous dites n'est pas plus vrai, j'en suis certaine. » Enfin, voyant que je ne parvenais pas à dissuader les accusateurs, je pris le parti de quitter la table pour aller pleurer dans ma chambre à coucher. Doyen arrive, il me trouve en larmes. « Hé, qu'avez-vous donc, mon enfant ? » dit-il. « Je n'ai pu tenir avec ces messieurs, » répondis-je. « Ils calomnient Lebrun d'une manière horrible. » Et je lui racontai ce qui s'était dit. Doyen sourit. « Je ne prétends pas, » reprit-il, « que tout ceci soit vrai. Mais vous êtes trop jeune, ma chère amie, pour savoir que la plupart des beaux esprits ont tout à la maison de campagne et rien à la maison de ville, autrement dit, tout dans la tête et rien dans le cœur. » Plus tard, je me suis rappelé bien des fois ce mot de doyen. Lorsque j'ai connu Lebrun, il était fort pauvre et toujours vêtu comme un misérable. Monsieur de Vaudreuil, qui n'avait pas tardé à s'enflammer avec raison pour son beau talent, lui envoya, sans se faire connaître, un grand coffre rempli de linge et d'habits. Je ne sais si le poète est parvenu à deviner l'auteur de ce don anonyme. Mais la révolution venue, il est de fait qu'il n'a jamais vociféré contre Monsieur de Vaudreuil autant qu'il vociférait contre beaucoup d'autres. À la vérité, M. de Vaudreuil ne négligeait aucune occasion de le faire connaître et de répandre sa réputation. Lebrun n'avait encore rien imprimé que le comte, ravi de l'aude sur les courtisans, parla de cette aude à la reine qui lui marqua quelque désir de le connaître. M. de Vaudreuil s'empressa de la porter et de la lire à Sa Majesté. Quand il eut fini, « Savez-vous, lui dit la reine, qui nous ôte notre enveloppe ?» Monsieur de Vaudreuil me rapporta cette réflexion si juste. Elle me frappa beaucoup plus qu'elle ne l'avait frappé lui-même, car il ne voulait voir dans tout cela que de la philosophie poétisée, tandis que Lebrun et ses pareils prêchaient pour l'avenir. La preuve en est que, pendant la Révolution, ce pindare devint atroce. Ses strophes sur la mort du roi et de la reine sont infernales. Pour la honte de sa mémoire, je voudrais qu'elles fussent imprimées en face du quatrain composé par lui, le jour où le roi lui fit une pension et qui finit ainsi « Larmes que n'avait pu m'arracher le malheur, coulaient pour la reconnaissance. » Bien loin de là, l'aimable et bon monsieur Després a supprimé dans le nouveau recueil des poésies de Lebrun toutes les horreurs, espérant sans doute les faire oublier à jamais. Pour moi, j'aime mieux que justice soit faite, et cela, quel que soit le talent de l'homme. À ma rentrée en France, Lebrun vivait encore, mais ni lui ni moi n'avons jamais désiré nous revoir. Champfort. De tous les gens de lettres qui venaient chez moi, il en est un que j'ai toujours détesté, comme par inspiration de l'avenir. C'était Champfort. Je le recevais pourtant très souvent, par complaisance pour quelques-uns de mes amis, notamment pour M. de Vaudreuil, dont il avait gagné le cœur, d'autant plus qu'il était malheureux. Sa conversation était fort spirituelle, mais âcre, pleine de fiel et sans aucun charme pour moi, à qui, du reste, son cynisme et sa saleté déplaisaient souverainement. Son véritable nom était Nicolas. Il le changea sur le conseil de M. de Vaudreuil, qui désirait le pousser dans le monde, et même à la cour s'il était possible. M. de Vaudreuil l'avait parfaitement logé chez lui, et, vivant presque toujours à Versailles, en son absence, il faisait servir une table pour Champfort et ceux qu'il plaisait à Champfort d'inviter. Enfin, il traitait cet homme comme un frère. Et cet homme, quand ses amis les révolutionnaires lui reprochaient plus tard d'avoir vécu dans la maison d'un ci-devant noble, répondait lâchement « Que voulez-vous ? J'étais Platon à la cour du tyran Denis. Je vous demande quel tyran c'était que M. de Vaudreuil. Mais aussi, quel Platon était-ce que Champfort ? » Des liaisons intimes avec Mirabeau et par-dessus tout l'envie des grands qui, de tout temps, avait rongé son âme, n'avait pas tardé à faire de Champfort un partisan énergumène de la Révolution. Oubliant, ou plutôt se rappelant, qu'il avait été secrétaire des commandements de M. le prince de Condé et de Mme Élisabeth, qui tous deux l'avaient comblé de bienfaits, on sait qu'il se montra un des plus ardents ennemis du trône et de la noblesse. En dépit du proverbe, qui prétend que les loups ne se mangent point entre eux, Champfort fut mis en prison par les hommes qui avaient si bien servi sa voix et sa plume. Et, comme on venait l'arrêter une seconde fois après qu'il en fut sorti, il se coupa la gorge avec son rasoir. La marquise de Grolier. Madame de Grolier, quoiqu'elle recherchât peu le monde, était connue de toute la haute société, dont elle faisait le charme et l'ornement par son esprit supérieur. L'éducation qu'elle avait reçue était fort au-dessus de celle que reçoivent habituellement les femmes. Elle savait le grec, le latin et connaissait parfaitement les maîtres classiques. Mais dans un salon, elle ne montrait jamais que son esprit et cachait son savoir. Une personne médiocre peut se prévaloir avec orgueil de quelques légères instructions. Madame de Grolier, toujours simple, toujours naturelle, n'annonçait aucune prétention et n'avait aucune pédanterie. Dans les premiers temps de mon mariage, j'allais fort rarement dans le monde. Je préférais aux nombreuses réunions les très petits comités de la marquise de Grolier. Il m'arrivait même souvent, ce que j'aimais beaucoup mieux, de passer ma soirée entière seule avec elle. Sa conversation, toujours animée, était riche d'idées, pleine de traits, et pourtant, on ne pourrait citer, parmi tant de bons mots qui lui échappaient sans cesse, un seul mot qui fût entaché de médisance. Ceci est d'autant plus remarquable que cette femme si supérieure devait à son tact, à l'extrême finesse de son esprit, une parfaite connaissance des hommes, et qu'elle était un peu misanthrope. Plus d'une fois, ses discours m'en fournissaient la preuve. Par exemple, elle avait un chien qui, lorsqu'elle fut devenue sourde et aveugle, faisait le bonheur de tous ses instants. J'en avais un aussi que j'aimais beaucoup. Un jour que nous nous entretenions ensemble de l'attachement et de la fidélité de nos deux petites bêtes, « Je voudrais, dis-je, que les chiens puissent parler. Ils nous diraient de si jolies choses. »« S'ils parlaient, ma chère, répondit-elle, ils entendraient et serait bientôt corrompu. Madame de Grolier peignait les fleurs avec une grande supériorité. Bien loin que son talent fût ce qu'on appelle un talent d'amateur, beaucoup de ses tableaux pourraient être placés à côté de ceux de Van Speudeuve dont elle était l'élève. Elle parlait peinture à merveille, comme elle parlait de tout au reste, car je ne suis jamais sortie du salon de Madame de Grolier sans avoir appris quelque chose d'intéressant ou d'instructif. Aussi, je ne la quittais qu'avec regret, et j'avais tellement l'habitude d'aller chez elle que mon cocher m'y menait sans que je lui dise rien, ce qu'elle m'a bien souvent rappelé d'un air tout aimable. Comme il faut des ombres au tableau, quelques personnes ont reproché à Madame de Grolier de l'exagération dans ses sentiments et dans ses opinions. Il est bien certain que, sur toute espèce de chose, elle avait un peu d'exaltation dans l'esprit. Mais il en résultait tant de générosité de cœur, tant de noblesse d'âme, qu'elle a dû à cette façon d'être des amis véritables et dévoués, qui lui sont restés fidèles jusqu'à son dernier jour. Personne d'ailleurs n'avait autant que Madame de Grolier ce charme dans les manières, ce ton parfait que l'on ne connaît plus aujourd'hui et qui semble avoir fini avec elle. Car hélas, elle a fini, et cette pensée est une des bien tristes pensées de ma vie. Elle a fini, jouissant encore des hautes facultés de son esprit. J'ai su que peu d'instants avant d'expirer, elle se souleva sur son séant, et, les yeux levés au ciel, ses cheveux blancs épars, elle adressa à Dieu une prière qui fit fondre en larmes et saisit d'admiration tous ceux qui l'écoutaient. Elle pria pour elle, pour son pays, pour cette restauration qu'elle croyait devoir assurer le bonheur des Français. Elle parla longtemps comme Homère, comme Bossuet, et rendit le dernier soupir.